Deuxième partie. Le changement. Paul raconte sa conversion. Verset 6. J'étais en route et j'approchais de Damas, quand tout à coup, vers midi, une grande lumière qui venait du ciel brilla autour de moi. Nombre de témoignages, arrivés à ce stade, dérapent ainsi. Un jour, j'ai été touché par la grâce de Dieu. J'ai compris que je faisais fausse route et que Jésus est le seul chemin. Je me suis repenti de mes péchés et je suis né de nouveau. Paul, au contraire, continue son récit. Il est précis et donne l'endroit et l'heure de l'événement. Les gens peuvent ainsi, par l'imagination, se mettre à sa place. Puisqu'il s'est identifié à eux, ils peuvent maintenant s'identifier à lui. Bien que les événements deviennent miraculeux, il les raconte simplement sans les commenter. Il est un éminent prédicateur, mais il sait que ce n'est pas le moment de prêcher sur cette grande lumière, car le récit du vécu est supérieur aux commentaires sur le vécu. Paul est d'autant plus crédible que le public sait maintenant qui il est, un juif pieux très cultivé. Verset 7. Je tombai à terre et entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Tous les détails pratiques prouvent la réalité de cette rencontre aussi étonnante que puissante. Paul entraîne ses auditeurs dans l'aventure qui a changé la vie du pharisien convaincu, ennemi du Christ qu'il était. Ses paroles, venues du ciel, qu'il rapporte fidèlement, se révèlent d'un amour et d'une sagesse que tout cœur ouvert peut déjà percevoir. Qualité extraordinaire d'un Seigneur qui s'identifie à son peuple persécuté et affronte un ennemi pour le relever et en faire un ami. Pourtant, Paul se garde bien de dire « Ai-je entendu Jésus me parler ?» Non. Il s'agit d'une voix qu'il ne connaît pas. S'agit-il d'un ange? D'un démon séducteur? Le mystère demeure entier pour tous. Verset 8. Je demandai « Qui es-tu, Seigneur ?» Saul formule alors la question que tous attendent. Comme lui, les auditeurs ont peur de la réponse. Ils ont peur de s'être trompés et d'avoir fait fausse route si longtemps. Pouvez-vous imaginer cette foule suspendue aux lèvres de Paul? La voix répondit, « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » La réponse divine est là, brillante comme le soleil, limpide comme le cristal. Tous les raisonnements religieux, intellectuels et philosophiques s'écroule tel un château de cartes balayé par le vent. Cette réponse exige un choix. Continuer, comble de l'orgueil, à se justifier, à argumenter, ou pire encore, à se boucher les oreilles, beaucoup l'ont fait, elles font encore de nos jours, ou bien capituler et reconnaître Jésus comme Seigneur. Saul, lui, comprend que ce Jésus qui a guéri les malades, enseigner les foules et fait du bien partout n'était pas un faux prophète. Il est vraiment ressuscité. Il est le Messie, le Sauveur qu'Israël attend. Saul sait que sa faute est énorme, écrasante, inexprimable. Quand Dieu nous a parlé, beaucoup d'entre nous sommes passés d'une religion à une relation, de la prière monologue à la prière dialogue, d'une croyance morte à une foi vivante. Si tel est votre cas, décrivez-le simplement, sans chercher à entrer dans des explications théologiques. C'est ce changement de mentalité que devrait démontrer votre témoignage et qui devrait s'opérer dans les cœurs, car chacun d'entre nous a reconnu un jour, d'une manière ou d'une autre, qu'il avait tort et Dieu raison. Verset 9. Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Paul souligne que les gens voyageant avec lui ont été, eux aussi, témoins de choses surnaturelles, ce qui atteste l'authenticité de l'expérience. Y a-t-il eu des témoins de votre conversion? Comment ont-ils vécu l'événement? Verset 10. Je demandai alors, « Que dois-je faire, Seigneur ?» La question de Saul montre bien qu'il est arrivé au bout de sa propre sagesse. Il ne se justifie pas, ne s'esquive pas. Que faire? Excellente question, qui marque le début d'une authentique conversion. Non plus ma volonté, mais la tienne. Avez-vous vécu ce genre de dialogue avec Dieu? Réfléchissez bien avant de dire non. Et le Seigneur me dit, relève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que Dieu t'ordonne de faire. Remarquons que Jésus ne fait pas lui-même le travail qu'il a confié à ses disciples. Le monde ne sera pas évangélisé si nous ne le faisons pas. Le Seigneur indique seulement à Saul la ville où il pourra rencontrer l'un de ses serviteurs. Notons encore que Saul ne reçoit aucune précision quant au lieu de rendez-vous. C'est à Ananias qu'elle sera donnée. Saul marche désormais par la foi. Quelles sont les étapes essentielles de vos premiers pas vers Christ? Quels en ont été les résultats? Verset 11. Comme j'étais devenu aveugle à cause de cette lumière si aveuglante, mes compagnons me prirent par la main et me conduisirent à Damas. Paul ne s'écarte pas de son récit. Il continue de décrire les conséquences physiques de cette rencontre, au point qu'il est devenu dépendant des autres et doit se laisser diriger comme un petit enfant. Celui qui passe les portes de Damas n'est plus un dirigeant pharisien respirant la violence et le meurtre. C'est un homme brisé et aveugle. Qu'en était-il pour vous? Jésus vous a-t-il interpellé au travers d'une rencontre, d'une maladie, d'un exaucement, d'une parole? Verset 12. Il y avait là un homme appelé Ananias, qui était pieux et obéissait à notre loi, et que tous les Juifs de Damas estimaient. Paul, en quelques mots, détruit les faux concepts de ses accusateurs. Le chrétien juif ne renie pas ses origines, il ne se sépare pas de son peuple et continue d'honorer la loi de Dieu. De même, apprenons à dire les valeurs qui, chez les chrétiens, nous ont touchés lors de nos premiers contacts avec eux. Poussiéreux, ennuyeux, ringards, dépassés sont malheureusement, pour trop de nos compatriotes, les adjectifs décrivant les chrétiens. Ne laissons pas le diable poursuivre cette œuvre d'aveuglement. Verset 13. Il vint me trouver, se tint près de moi et me dit, « Saul, mon frère, que la vue te soit rendue. » Au même moment, la vue me fut rendue et je le vis. Ananias est non seulement un vrai juif, mais aussi un réel disciple de Jésus-Christ, revêtu de la puissance d'en haut. Que de qualités étonnantes chez cet homme. Plusieurs dans la foule doivent se souvenir du boiteux guéri à la belle porte par Pierre et Jean. D'autres ont eu un membre de leur famille délivré par Jésus ou par les apôtres. Voilà encore un homme devant eux, témoignage de sa guérison. Qui peut ouvrir les yeux d'un aveugle si Dieu n'est avec lui? Conformément à l'évangile de Jean, chapitre 9, versets 31 à 33. La conviction descend sur la foule, mais la fureur de ceux qui refusent de voir et d'entendre l'évidence gronde déjà. Avez-vous été au bénéfice d'un ministère déterminant, comme Paul ici? Parlez-en, mais sans langage religieux, en restant absolument pragmatique, répondant aux questions qui, quoi, comment, quand, où. Verset 14. Il ajouta, « Le Dieu de nos ancêtres t'a choisi d'avance pour que tu connaisses sa volonté et que tu vois le seul juste et que tu l'entendes parler de sa propre bouche. » Les paroles d'Ananias, retransmises exactement, font l'effet d'une bombe pour la foule. Car c'est bien le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël qui a voulu et conduit cette rencontre avec le juste. Persécuter Jésus, c'est persécuter Dieu lui-même. Rejeter l'un, c'est rejeter l'autre. Quelle effroyable erreur que de vouloir servir Dieu en jetant les chrétiens en prison. Conformément à Jean 16, versets 1 à 4. En quoi votre découverte s'oppose-t-elle aux croyances, coutumes et traditions de vos concitoyens? La proclamer sans détour vous demandera d'être dépouillé de la crainte des hommes qui cherchent sans cesse à tordre ou diluer la vérité. Verset 15. Car tu dois être son témoin pour annoncer devant tous les hommes ce que tu as vu et entendu. Saul doit faire demi-tour, aimer ce qu'il haïssait, propager ce qu'il combattait, être témoin devant tous de celui qu'il persécutait. Y a-t-il plus grand bouleversement? Quels sont les nouveaux défis qui ont découlé de votre engagement? Quel sens nouveau votre vie a-t-elle pris? Verset 16. Et maintenant, pourquoi attends-tu encore? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en faisant appel à son nom. Paul n'a pas prêché une seule seconde, et pourtant, tous ceux qui l'écoutent en ont entendu suffisamment pour pouvoir se convertir et être sauvés. Telle est l'extraordinaire puissance que Dieu nous accorde par le témoignage. C'est la puissance même du salut. L'apôtre expose l'alliance inédite qui s'établit entre Jésus et lui. Des épithètes telles que sage, solennel, passionnante, pleine de fraîcheur caractérisent les citations données ici. Cherchez à imiter l'apôtre en relatant et condensant les dialogues clés que vous avez pu avoir. Parlez de votre conversion de telle sorte que vos auditeurs en comprennent l'essence et puissent s'en inspirer. Comment et pourquoi vous êtes-vous converti? Avez-vous demandé pardon à certaines personnes? Comment ont-elles réagi? Avez-vous réparé des torts? Quels en ont été les fruits? Réflexion. Combien d'heures aurait-il fallu à Paul pour expliquer que le chrétien respecte la loi, les prophètes et les patriarches, que Jésus est le Messie, la lumière qui éclaire les hommes, et que pour être sauvé, il faut se détourner du péché et le reconnaître comme Seigneur? Imaginez le résultat. Premièrement, ni la foule ni le centurion ne lui auraient accordé le temps nécessaire. En second lieu, le miroir n'étant pas dressé, personne n'aurait pu s'identifier à Paul. On l'aurait alors méprisé comme un discoureur, chef d'une secte quelconque. Finalement, et c'est le plus grave, la foule n'aurait pas entendu parler du chemin du salut, but pour lequel Dieu a permis cette situation. Quelle erreur pour Paul, et quelle tristesse pour le Saint-Esprit. Il y a donc un temps pour tout, en particulier un temps pour prêcher, et Paul le savait, et un temps pour témoigner. Pour nous aider, voici deux phrases soulignant respectivement la différence entre la prédication et le témoignage. Dieu est saint, mais nous sommes mauvais. Fléchissons les genoux devant lui et demandons-lui grâce. Il ne désire pas la mort du pécheur, mais il veut qu'il se repente et qu'il vive. Je me suis vu tel que j'étais, égoïste et sale devant Dieu. Je me suis mis à genoux et lui ai dit, « Si tu peux me changer, fais-le. » Et il l'a fait. Il est important que la personne qui vous écoute puisse vous suivre dans votre démarche de conversion. Souvenez-vous de ne pas prêcher la conversion, mais de témoigner de la vôtre. Trop de témoignages, après avoir débuté de manière excellente, se terminent par un discours théologique insipide, laissant l'auditeur sur sa faim. Un témoignage qui se transforme en mauvaise prédication lasse l'auditoire et le ferme au message. Rappelons-nous que le prédicateur, s'il y en a un, se chargera d'expliquer clairement l'existence du péché, la substitution de Christ et la conversion. Par contraste, un témoignage pétillant de vie aiguisera l'appétit spirituel de chacun et suscitera des questions auxquelles répondra le message, ou s'il n'y en a pas comme c'est le cas en acte 22, provoquera une réflexion ou un dialogue propice à l'évangile. Mise en pratique. Votre conversion. Que votre conversion se soit passée brutalement ou en plusieurs années, essayez de répondre le plus exactement possible aux questions suivantes. Qui m'a parlé de l'évangile de façon vivante pour la première fois? Où et quand était-ce? Ai-je été au bénéfice d'un ministère déterminant comme Paul l'a été? Quelles sont les valeurs qui, chez les chrétiens, m'ont touché lors de mes premiers contacts avec eux. Si ce sont vos parents, quelles étaient leurs qualités en Christ? Comment ai-je été convaincu que Jésus est une personne vivante? Un dialogue clé a-t-il eu lieu, et si oui, lequel? Comment ai-je compris que je devais changer de comportement? Comment et pourquoi me suis-je converti? Y a-t-il eu une incidence physique? Si oui, laquelle? Quelles sont les étapes essentielles de mes premiers pas vers Christ? Quels en ont été les résultats? Si je me suis adressé à Dieu pour la première fois de manière adulte à ce moment-là, qu'ai-je dit? Comment Dieu a-t-il répondu à cette prière? Ai-je demandé pardon à certaines personnes et réparé des torts? Comment cela s'est-il passé? Quels en ont été les fruits? Quels sont les nouveaux défis qui ont découlé de mon engagement? Quel sens nouveau ma vie a-t-elle pris? Autocorrection. Repérez maintenant dans toutes vos réponses et notes les mots dont le sens serait trop général. Soulignez-les et remplacez-les par des termes précis. Repérez également tous les mots et toutes les expressions incompréhensibles pour des non-chrétiens. Soulignez-les et replacez-les de manière adéquate. Composition. Rédigez le moment de votre conversion de façon chronologique en retenant les faits les plus importants. Répondez aux questions qui, quand, où, quoi, comment, combien. N'expliquez pas, mais racontez de telle manière que vos auditeurs puissent se convertir à leur tour en s'inspirant de votre démarche.